Merci, Jim, parce que le fait d'avoir parlé de Chirac me permet de gagner quelques pages dans ce contexte où le temps est précieux. J'ai proposé de parler des seuils, de penser ou lire les seuils pour voir d'abord le lien entre tolérance et violence, la manière dont il s'est imposé dans la théorisation de ce qui est devenu un concept très à la mode, et il véhicule une notion d'acceptabilité quasi mesurable. Hein. Quand on dit tolérance zéro, c'est comme si on avait une échelle à partir de laquelle on pouvait donc graduer la chose et dire quand est-ce que donc on est au-dessus de zéro, comme la température ou en bas de zéro. Et alors, mais que l'on se dispose à accueillir donc sans les postures de rejet prescrites par un certain ordre, donc quelque chose d'inconfortable qu'on accueille. Que la tolérance soit ainsi comprise comme un espace que l'on concède à l'autre, mais dont les frontières restent floues et variables, sous donc la dimension d'une autorisation, permission, aller jusqu'à un certain niveau. Alors, ou que ce soit dans la réflexion de théoriciens comme Zizek, qui voit plutôt la récupération idéologique de la tolérance, dans le sens où, au fond, on tolère ce qui n'est pas vraiment autre. C'est-à-dire que donc il y a une certaine violence qui est appliquée à l'image, je vais en parler tout à l'heure. Il y a là, à mon sens, je pense, un espace qu'on concède à l'inconfort. À un certain moment, donc, il y a comme un postulat selon lequel on parle de tolérance en présence d'un inconfort et d'une marge qu'on lui concède de manière à pouvoir l'accepter d'une certaine façon. Et c'est cet inconfort, je dis inconfort pour ne pas parler de violence tout de suite, et pour pouvoir, n'est-ce pas, embrasser toute la palette, n'est-ce pas, de ce qui peut déranger le soi et qui peut donc l'amener à produire un discours de la tolérance. Mais l'inconfort peut être juste le fait banal de se sentir mal à l'aise face à quelque chose qui nous importune et aller jusqu'à l'extermination de l'autre qui nous dérange. Donc nous sommes là dans les violences radicales. Et ce sont ces violences qui m'intéressent. Les violences donc génocidaires que je veux considérer ici parce qu'elles me permettent de réfléchir de manière plus pointue et n'est-ce pas, c'est de voir des phénomènes plus visibles, plus concrets, plus explicites, et donc de développer la réflexion que je vous présente. Ce qui m'intéresse dans cette communication, ce n'est pas l'étude de cette violence et de son arrimage complexe à la tolérance dans le contexte socio-historique. Je n'emprunterai pas la voix du sociologue, je n'en suis pas un, pour analyser ces liens et penser les seuils de la violence et de la tolérance. Mon propos s'inscrit sur une deuxième scène, celle de l'écriture romanesque des violences africaines et par conséquent de la tolérance qui en est le corollaire. Alors là encore, il ne s'agira pas a priori de voir comment la tolérance s'écrit concrètement, c'est-à-dire que je n'irai pas lire dans le texte pour le moment, c'est un travail à faire, mais alors donc ce n'est pas à ce niveau-là que je vais le faire, donc il ne s'agit pas de voir comment elle s'écrit concrètement face aux violences qui ont marqué les écritures africaines dans les dernières décennies, avec fortement inscrit dans les imaginaires en Afrique et ailleurs le génocide de Tutsi en 1994. Il m'importe plutôt de voir comment, face aux romans de violence, ces romans donc qui traitent des violences collectives génocidaires, c'est comme ça que je les appelle, je ne veux pas plus que ça, on pourrait le faire dans la discussion. Donc, il m'importe de voir comment, face aux romans de violence, le lecteur est amené à interroger, à penser ses seuils, notamment celui de la tolérance, et de quelle manière ceci se trouve redéfini face à des récits qui mettent en scène l'horreur. Donc, je me déplace de la scène concrète, n'est-ce pas, des faits historiques et documentables pour voir leur représentation. Donc on est là face à une violence médiatisée, celle qu'on retrouve dans le roman, et je veux voir comment est-ce que le lecteur aborde cette violence-là et de quelle façon les horizons se rencontrent. Quel est le résultat de cette rencontre des deux horizons, l'horizon du texte et de l'horizon du lecteur. Alors, si de manière empirique on peut observer une certaine flexibilité, une sorte de modulation contextuelle et jamais définitive de ce qu'on appelle communément le seuil de tolérance, il m'apparaît tout aussi pertinent d'interroger le phénomène du point de vue de l'expérience de la lecture. Le sujet historique, collectif ou individuel, qui est exposé à une certaine violence, la reçoit à partir d'une disposition préalable à accepter, à tolérer un certain inconfort. Cette disposition préalable qui variera suivant la durée de l'exposition à cet inconfort et l'intensité de celui-ci invite à analyser les mêmes variations chez le lecteur. Que fait un lecteur face à Morambi, par exemple, le livre des Osmas, l'aîné des orphelins, et ainsi de suite. Donc, comment se comporte-t-il? Alors, et c'est ce qui m'intéresse ici. Dans son cas, ce lecteur-là, il est exposé à une violence médiatisée non immédiate et en prend donc connaissance à partir d'une scène décalée qui le met à l'abri de certains effets que ressent le sujet historique face à la même violence. Alors, cependant, l'intérêt d'interroger ce seuil de tolérance du lecteur après celui du sujet empirique est capital dans le débat sur la valeur de la littérature. Là, je ne justifie pas ma demande de subvention, mais nous sommes aussi quand même, avec un sujet comme celui de la tolérance, nous sommes en train de réfléchir sur un phénomène qui a un ancrage politique et social très fort. Nous sommes dans l'ère du temps, mais nous sommes des littéraires. Alors donc, et je pense que la littérature a quelque chose à voir là, et que réfléchir sur les textes littéraires nous permet au fond de produire un certain discours qui va nous ramener vers des enjeux très concrets, mais il faut rendre justice au texte, et c'est ce que je vais essayer de faire. En y réfléchissant, je définirai une figure particulière, disons un type particulier de lecture. Je l'appellerai lecteur médiateur, c'est ma proposition. Le lecteur médiateur, parce qu'il posera un certain nombre de gestes par le fait de la lecture qui permettront de le distinguer d'un lecteur naïf dont l'horizon, le seuil de tolérance et les valeurs ne changeraient que minimalement à la lecture des textes de violence. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est une réflexion sur deux types de lecteurs. Un lecteur que je qualifierais de lecteur tolérant et un lecteur que je qualifie de lecteur médiateur, un lecteur à médiation. Et j'expliquerai ce que j'entends par lecteur à médiation. Donc, je suis en année sabbatique, je suis en train de rédiger certaines choses et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mes propositions et de retourner à ma table en fonction de ce que vous avez dit ici et de vos réactions. Donc, ma communication sera divisée en deux parties principalement. Dans la première, je montrerai comment la violence historique nourrit le roman de violence dans le contexte africain pour éviter le reproche d'une adéquation directe entre monde réel et univers romanesque. Ça, c'est la première des choses. Donc, parler du roman de violence, il faut quand même le dire. Hier, il y a eu des discussions à ce sujet où on disait, bon, on ne prétend pas que le film reproduise l'exacte réalité de la banlieue, ainsi de suite. Donc, pour les questions de méthodologie quand même, et je voulais faire quelques précisions. Dans la deuxième partie, je m'arrêterai à la figure du lecteur de violence pour en décliner quelques caractéristiques. Nous verrons que la confrontation avec une violence dont il prend connaissance à partir du roman aura pour conséquence de le pousser à réduire la marge qui était consentie à la violence faite à l'autre ou à la violence tout simplement. Quand cela arrive, nous faisons face à un lecteur que je qualifie de médiateur parce que plus que le lecteur tolérant, le lecteur médiateur est potentiellement un acteur du changement et de la lutte contre l'inconfort et la violence radicale. Il est plus qu'un lecteur tolérant parce qu'il franchit le seuil ambigu de la tolérance pour adopter une posture de reconnaissance de l'autre. On en a parlé hier en passant, victime de violence et de l'inconfort. Je présenterai trois gestes importants qu'il pose et qui sont indispensables pour accentuer la distance entre lui et le lecteur tolérant. Donc, première chose, la violence du lieu du crime au texte littéraire. Donc, je vais sauter quelques pages pour simplement le résumer de cette manière-là. Je pense ce rapport entre les deux lieux, le lieu du crime, le lieu de la violence et le lieu textuel, qui est aussi un lieu où s'expose certaines violences. Je pense ce passage avec la sociocritique, avec des gens comme Barberis, Peter Simon, qui, n'est-ce pas, ont théorisé ce lien, n'est-ce pas, entre le texte littéraire et le discours social de différentes manières à travers donc ce qu'on peut qualifier de geste de ponction, n'est-ce pas, du littéraire dans le discours social et de reconfiguration, n'est-ce pas, de tous ces langages codés dans le contexte du texte littéraire pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose qui n'est pas ex nihilo, mais qui non plus ne reproduit pas exactement l'univers à partir duquel il s'inspire. Donc, je pense qu'on s'entend là-dessus. Donc, c'est de cette manière-là que je le perçois et que je le décris dans mon propos. Et donc, cela me permet de voir que, effectivement, puisque ces violences collectives ont historiquement eu lieu, et que l'écrivain travaille à partir de ce contexte et que ce qu'il va produire comme œuvre va donc convoquer un certain type de langage et permettre, n'est-ce pas, des accès, ouvrir des portes et en même temps donner lieu à une écriture spécifique Et c'est la raison pour laquelle hier je posais la question de savoir qu'est-ce qui arrive, et ça c'est, ce sera ma contribution ce matin minimale pour la question de l'écriture, même la violence en tant que telle. Dans le texte, je ne ferai pas d'analyse, mais au moins cette indication-là, qu'est-ce qui arrive et quand l'écrivain, pour décrire une scène de massacre, parlant de la mort d'un bébé par exemple, dit qu'il a été tué comme un chat de gouttière, qu'est-ce qui arrive, à qui est-ce qu'on s'adresse? Prenons le cas, retenez-vous, c'est la journée est jeune, mais prenons la situation où on se retrouverait dans un village de mangeurs de chats et on ne verrait pas que, au fond, le fait de tuer le chat de gouttière renvoie à une violence inouïe. Alors, on verrait simplement qu'il y a là quelque chose, l'écriture, le type de langage qu'on convoque, la manière dont on présente, on travaille avec le langage, ne rend pas compte, n'est-ce pas, à partir d'un certain pôle de lecture, de la violence dont on veut témoigner. Et c'est au fond, les contraintes de lecture, les contraintes herméneutiques qui sont liées à l'usage même de ce langage codé, c'est de ça qu'il serait question si je devais faire l'analyse au plan de l'écriture de cette violence-là. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je parle de violence. Alors, très rapidement, donc, je résume, je survole la chose. Le lecteur tolérant est donc celui qui va lire le texte, et à la lecture du texte, il arrive avec un certain horizon. J'essaie de résumer. Et il arrive avec un horizon, et cet horizon est un horizon qui est déjà marqué par ce qu'il sait de cette violence-là. Alors donc, nous avons affaire ici à des lecteurs qui n'arrivent pas, qui ne sont pas en train d'assister à des scènes de violence qui se produisent pour la première fois. Le texte littéraire, dans ce qu'il propose, permet un retour sur la violence. Et ce retour est un retour donc d'un sujet qui a une horizon d'attente, pour reprendre le terme de Yauss, qui a une horizon d'attente déjà marquée par ce qui s'est produit. Et alors, le seuil de tolérance de la violence dans le roman, donc tel que le lecteur va la lire, est un seuil qui s'est déjà constitué à la première lecture, je dirais, ou à la première rencontre de cette violence-là, telle qu'elle s'est produite dans les faits. Nous sommes donc dans un contexte où, si on a banalisé par exemple le génocide de 1994, le lecteur qui lit les textes avec le seuil de tolérance qui aurait justifié d'une certaine façon qu'il ait une attitude plus ou moins désinvolte face à ces événements, arrive face au texte avec cet horizon, et la question c'est de savoir de quelle manière est-ce qu'il va lire le texte et de quelle manière donc est-ce que son horizon, son horizon d'attente va changer. Vous savez, je ne m'arrêterai pas dans le temps qui m'est imparti sur donc, la question du changement d'horizon, mais on sait tous qu'après Yauss et l'école de Constance, que cette rencontre-là entre les deux horizons produit toujours quelque chose qui peut être de l'ordre d'une confirmation des valeurs du lecteur, ou alors d'un bouleversement fondamental de ces valeurs, et à partir de ce moment-là, on peut assister à des changements importants. Donc, ma question, et je ne développerai pas, la question que je pose à ce type de lecteur, c'est s'appuie sur l'horizon qu'il a et à partir duquel il va lire le texte. Donc, face à des violences qui sont produites, il a un horizon d'attente, et cet horizon d'attente-là est nourri par des discours majeurs, par des images qui véhiculent CNN et autres. Et le texte que j'ai ici, comme exemple, c'est Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements, qui dans la publication, la réédition de 2011, de l'œuvre, et ajoute une postface. Et dans cette postface, il parle de ce seuil de tolérance ou de cet horizon d'attente dont il est question ici, en citant même Mitterrand qui disait « Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. » Donc, un génocide, c'est un génocide, mais un génocide dans ces pays-là, ce n'est pas trop important. C'est de cette marge-là que je parle. Alors, donc, en lisant le texte, et avec un horizon de ce genre, il se pourrait que le lecteur tolérant est celui qui lit le texte, le traverse et ressort du texte avec le même horizon, en se disant « Oui, c'est vrai, mais au fond, ça avait déjà été classé comme quelque chose qui n'est pas... » C'est dérangeant, mais bon, ils ont l'habitude de faire ça, par exemple. Ou donc, tout ce qu'il y a là et que je ne vais pas citer. Deuxième chose, dans cet horizon, qui n'est pas assimilable à la tolérance, c'est ce que Boubacar Boris Diop, dans sa postface, identifie comme l'insensibilité des Africains. Et donc, l'insensibilité, et on pourra en rediscuter, ce n'est pas de l'intolérance, ou ce n'est pas, elle n'est pas à confondre, parce qu'elle ne pousse pas à l'action, cette insensibilité n'est pas de la tolérance. Il faudra donc faire, j'aimerais quand même émettre des nuances à ce sujet. Je vais résumer ce que je perçois, donc contrairement à ce lecteur tolérant, je vais dire trois choses sur le lecteur médiateur, et pour donc vous donner l'aperçu de ce que j'ai prévu dans la présentation. Le lecteur médiateur est donc un lecteur qui, que je retrouve dans la postface de Diop, et avec non, il n'y a aucun problème. Alors, avec un compte rendu de lecture. Et c'est ce genre de travail qui est quand même assez compliqué à faire, mais que je juge important, et qui consiste à recueillir les impressions de lecture. Moi, j'ai des étudiants dans la salle et je demande souvent, est-ce que, comment vous avez lu l'œuvre, comment vous l'avez perçue? J'aime savoir, avant même que le regard de l'expert, du critique, de la critique ne se pose sur l'œuvre, quelles sont les impressions de lecture? Il m'est arrivé aussi de demander qu'est-ce qu'il mangeait pendant qu'il lisait, par exemple, Morambi. Non, mais parce que nous avons, selon les textes, j'ose même croire que nous avons des lieux de lecture, des postures de lecture, des endroits, des atmosphères, et qu'il y a des textes qu'on lit différemment par rapport à d'autres textes. Ce faisant, et alors, d'où la question. Il y a une lectrice, et Monsieur le Président, je vais conclure. Il y a une lectrice de Boubacar Boris Diop qui dit ceci. Pendant des années à Voutel, j'ai énormément souffert de ce qui est arrivé au Rwanda, sans jamais réussir à me sentir quoi que ce soit de commun avec ses lecteurs, avec ses acteurs, bourreaux et victimes confondus. Pour moi, tout cela se passait dans un monde lointain et inconnu, dans un monde qui m'était totalement étranger. Grâce à la lecture des œuvres de fiction sur le génocide, ces Rwandais me sont devenus peu à peu aussi familiers que mes voisins de palier. Et aujourd'hui, je sais que rien, absolument rien, ne me différencie d'eux. Je suis eux et ils sont moi. C'est tout. Fin de citation. Nous avons là quelque chose que je reprends pour justement réfléchir sur cette figure du lecteur médiateur et qui va poser trois gestes, et je vais finir avec ça. Le premier geste qu'il pose face à l'œuvre de violence lui permet de se constituer un sujet autre. Le lecteur de violence, de cette violence-là qui est un lecteur médiateur, est un lecteur qui se constitue un sujet autre de la violence et des sujets en souffrance. Alors, et là, on peut le penser depuis la conception de l'œuvre littéraire comme artefact avec Franz Rutten, jusqu'à la compréhension de l'œuvre littéraire du point de vue du lecteur, avec les subjectivités qui se posent, celle d'un auteur et d'une œuvre, d'un narrateur, d'un horizon qui se construit, et cette subjectivité du lecteur face à l'œuvre. Ça, c'est le premier geste qu'il pose, je ne vais pas développer. Donc, un premier geste qui lui permet de se constituer un sujet ou autre, face à un monde qui n'est pas le sien et face à des sujets en souffrance. Et on va aller plus loin, il y a quelqu'un comme Colin Davis qui voit que l'œuvre en tant que telle est une forme d'altérité. On peut aller jusque là. Le deuxième geste qu'il pose, c'est le lecteur médiateur, qui est différent du lecteur tolérant, et qu'il est un lecteur sensible. Et c'est la raison pour laquelle hier je posais la question pour savoir jusqu'où, de quelle façon nous pensons le sensible. C'est un lecteur sensible. Un lecteur sensible qui se comprend comme quelqu'un qui va aborder les questions avec une conscience, n'est-ce pas, du sujet face à lui, et qui va, et je reprends le terme de Butler qui dit qu'au fond, il s'agit de devenir des sortes de citoyens qui sont capables, n'est-ce pas, d'être choqués, capables d'être affectés. Et c'est la meilleure manière pour moi ce matin de raccourcir et de résumer. Donc, le lecteur médiateur est un lecteur qui pose des gestes en tant que lecteur sensible. Donc, sensible dans le sens où il est capable de ressentir l'émotion et d'être choqué ou d'être affecté. Alors, troisième chose, il est un lecteur qui positionne comme quelqu'un dont la démarche est une démarche critique, qui travaille avec des images dont il connaît la portée. Et cette portée-là, est très très complexe. Je vais quand même dire deux choses là-dessus à partir de Levinas. Mais alors, c'est un lecteur critique. Il est un lecteur autre, il est un lecteur sensible et il est un lecteur critique. Il est un lecteur critique pourquoi? Et là, je reviens à Butler pour qui s'appuie sur Levinas. Et je parlerai aussi, si j'avais le temps de le développer, à partir de Colin Davis qui parle, n'est-ce pas, du geste éthique et de la lecture de ces textes-là. Lecteur critique, dans sa manière d'aborder les textes ou les images, pourquoi? Parce que, suivant Levinas, je vais le citer, il dit ceci, Levinas, donc c'est à partir de là que je pose le geste critique de ce lecteur médiateur, différent du lecteur tolérant. Il dit, la libération par l'expérience esthétique peut s'accomplir sur trois plans. La conscience, en tant qu'activité productrice, crée un monde qui est son œuvre propre. La conscience, qu'activité réceptrice, saisit la possibilité de renouveler sa perception. Donc, je suis avec Yaos, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Alors, c'est ça que je cherchais. Donc, dans sensibilité et proximité, ce n'était pas ça, c'est Yaos. Dans sensibilité et proximité, Levinas énonce les fondements d'une appréhension de soi, donc l'identité, en pensant ce par quoi justement l'identité s'offre au regard de l'autre et de soi. Il dit ceci, la vérité, c'est ça, la vérité ne peut consister qu'en l'exposition de l'être à lui-même, dans une singulière inadéquation à soi qui est aussi égalité. Il dit, dans une singulière inadéquation à soi qui est aussi égalité. Alors, partition où la partie vaut le tout, où la partie est l'image du tout. Et on se souvient que, au fond, c'est, je dis, le lecteur médiateur qui n'est pas là juste pour tolérer quelque chose et conforter un horizon à partir duquel il a déjà reçu une violence historique. Ce lecteur est un lecteur critique de l'image, des images qu'on lui présente. Et ce faisant, il sait que la partie est l'image du tout et qu'elle est, elle est incomplète, certes, mais elle est une sorte d'orientation. C'est comme une plaque sur l'autoroute qui indique que le tout est de ce côté-ci, allez là. Et c'est un peu dans ce sens-là. Il dit, mais le décalage entre l'image et le tout, Levinas dit, mais le décalage entre l'image et le tout interdit à l'image d'en rester à sa fixité. Et c'est très important. Il dit, ce décalage-là interdit à l'image d'en rester à sa fixité. Elle doit se tenir aux confins d'elle-même ou au-delà d'elle-même pour que la vérité ne soit pas partielle ni partiale. Alors, et c'est là vraiment le rôle est très difficile, je dirais, du lecteur et médiateur. Je vais conclure, je suis à une demi-page, et je vais lire ma conclusion. Donc, nous avons trois, un lecteur médiateur qui a qui pose trois gestes, et en tant que lecteur, son rapport au texte et aux images est un rapport qui est marqué par cette conscience d'une inadéquation. Donc, même face au témoignage, d'un rescapé, il sait que ceci est une image et que l'image envoie une orientation, une direction, renvoie au tout sans être le tout et qu'elle doit être poussée à ses limites extrêmes de manière à ce que la perception soit renouvelée. Le lecteur en médiation est, face aux images de la violence extrême, un lecteur sensible, critique des modes de création et de validation-réception des images. Médiation ici n'est donc pas synonyme de pacification. Si l'image est sensible au sens de Levinas, celui-ci exige aussi qu'elle soit reçue, je cite Levinas, accueillie immédiatement sans subir de modification. Est-ce possible? Le lecteur médiateur vise, je pense, suivant ce principe de l'immédiateté, une réduction maximale de la distance entre lui et ce qui le sépare de l'autre par la réduction de la distance entre lui et le fragment qui véhicule cette altérité. Il est conscient du fait que l'image peut subir des modifications. Il est conscient du fait que l'image, que l'image subit constamment des modifications. Que le savoir n'est pas immédiat, mais médiatisé de différentes manières. La lecture en médiation est tout sauf une lecture tolérante. Elle ne vise donc pas la réduction de la souffrance et des violences qui sont faites à l'autre, ni la décomplexification des images incomplètes et complexes qui en rendent compte. En se déployant, la lecture, entendue comme médiation, vise à rendre la notion de tolérance caduque. Elle ne s'évalue cependant pas tout de suite aux résultats éthiques ou esthétiques, mais d'abord à la démarche, au processus, à la manière dont elle se comprend comme le geste d'un lecteur autre, sensible et conscient du fait que ce qu'il lit va faire bouger ses seuils. Elle peut conduire à un engagement dans le sens où une subjectivité dans la valorisation de l'altérité dont elle a eu connaissance de la souffrance par le biais d'une partition, mais quelque chose de soi engage contre les mécanismes de la violence qui l'a affecté et choqué à son tour. C'est là toute la différence entre tolérance et médiation. Merci. Thank you.